Michael Storper, bonjour. Merci d'avoir répondu à
Bonjour.
notre invitation. Vous êtes géographe de formation, spécialiste d'économie politique, de sociologie économique, et vous travaillez tout particulièrement sur l'économie des métropoles, au Centre de sociologie des organisations où vous êtes chercheur associé, à l'Institut d'études politiques de Paris où vous êtes professeur, mais aussi à la UCLA, à la London School of Economics, où vous enseignez régulièrement. Alors aujourd'hui, nous voudrions vous interroger sur la ville de Paris. Au moment où l'on discute du projet d'un Grand Paris, mais en inscrivant notre réflexion dans un contexte plus large, celui des transformations et des dynamiques des grandes métropoles, ce qui nous permettra de mieux comprendre le rang de Paris dans le monde et de nous interroger sur l'échelle à laquelle il faut penser la région parisienne. Alors j'en viens immédiatement à ma première question. Les métropoles apparaissent aujourd'hui comme des lieux d'observation privilégiés des changements d'échelle et des reterritorialisations liées à la mondialisation de l'économie. Depuis une dizaine d'années, dans le sillage des travaux de Saskia Sassen, un certain nombre de chercheurs parle de ville globale, c'est-à-dire de ville qui aurait pour fonction ou pour vocation d'accueillir les services spécialisés indispensables aux grandes entreprises, au centre de décision financiers ou au centre d'innovation technologique. Alors, pensez-vous que l'avenir du Grand Paris est d'être une ville globale ou inversement pensez-vous que le terme de ville globale est inapproprié à la métropole parisienne et peut-être à l'ensemble des métropoles?
Il convient peut-être de revenir sur le débat des grandes villes. C'est-à-dire que dans la formulation au début faite par Saskin, il y avait l'idée d'une ville globale comme ville dont l'économie était de plus en plus basée sur la finance. Et donc, c'est par cette optique qu'elle a choisi donc, trois grandes villes qu'elle a, elle a nommées comme des villes globales par excellence, à savoir Londres, New York et Tokyo, parce que c'était ces trois grandes villes qui avaient la proportion d'activités financières les plus élevées de la planète. Et à partir de cette analyse, on a déclenché une vingtaine d'années de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'une ville globale, c'est quoi une économie métropolitaine globalisée, et ainsi de suite. D'où, à mon sens, un problème par rapport à l'analyse d'une ville comme Paris, car, comme on le sait, l'économie parisienne ou l'économie francilienne, hein, ça c'est quand même l'échelle de référence, je dirais, est une économie beaucoup plus diversifiée, moins spécialisée dans la finance que celle de Londres, de New York, de Tokyo. Et l'économie francilienne repose donc sur plusieurs bases, hein, sur les manufactures, bien sûr sur la finance, les services aux entreprises, et évidemment, le secteur étatique, le gouvernement, hein, les médias, la mode, donc y a la haute technologie. Donc on a une économie extrêmement diversifiée qui, et souvent quand on fait, comme on a tendance à faire depuis 20 ans, les classements des villes globales, Paris est là, mais disons, le classement n'est pas est moins élevé que Londres ou New York ou Tokyo. Et à mon sens, ça c'est une, on peut dire, ça devient problématique par rapport à la compréhension de la dynamique économique de nos très grandes villes. Et je peux prendre par comparaison, même si ça puisse paraître inattendu, en fait deux grandes villes qui se ressemblent beaucoup, à savoir Los Angeles et Paris. On n'a pas tendance à dire, oui, dans quel sens Paris peut ressembler à Los Angeles. Bon, évidemment, du point de vue architectural, de style de vie, d'histoire et tout ça. Mais c'est deux très grandes villes avec des économies qui ne sont pas très spécialisées dans une seule branche d'activité économique. Et donc, qui confond les analystes. Lorsqu'ils essaient de mettre une sorte de grille de lecture par des spécialisations très très fortes, on trouve le trio de New York, Tokyo, Londres, et même souvent on trouve, pour moi, ce qui est des cas qui n'ont pas lieu d'être, comme Francfort ou Amsterdam, et vers les rangs 7, 8, 9, 10, on trouve Los Angeles et Paris. Parce que ces villes n'ont pas de coefficient de spécialisation très, très, très élevé. D'où le problème avec le débat. À savoir que toutes les villes sont globalisées aujourd'hui. Parce que la mondialisation de l'économie touche toutes les activités, oui, que ce soit des plus traditionnelles ou les plus high-tech, les low-tech, la finance, les manufactures, les médias et tout ça. Donc, imposer une grille de lecture qui en fait est basée sur la finance et en quelque sorte détourne l'attention de la question essentielle, qui est donc quelles sont les dynamiques de la mondialisation et les économies des villes. Et donc, les questions, à mon avis, devrait être un peu reformulé, hein. C'est-à-dire que c'est quoi dans la mondialisation qui est liée à l'urbanisation et à la dynamique de croissance des villes? Et dans ça, on peut dire une groupe là, de villes qui sont des très grandes villes du monde, qui sont des cas peut-être qui ont des spécificités par rapport à cette échelle de la très grande ville, oui, comme Paris, New York, Londres, et même des villes dans le monde en développement, hein, Shanghai, Hong Kong. Quelles sont les spécificités liées à cette échelle de la très grande métropole?
Justement, enfin, sur les spécificités de la très grande métropole, vous avez insisté jusqu'à présent énormément sur les questions économiques. En même temps, quand on écoute certains discours de la mairie de Londres, on voit qu'il y a, au-delà de la seule spécialisation financière de Londres, il y a une question de position symbolique, de prestige, de cosmopolitisme, qui dépasse uniquement la seule spécialisation ou diversification des activités économiques. Et de ce point de vue-là, j'aurais deux questions. La première, c'est dans quelle mesure est-ce que, au-delà des activités économiques, vous estimez qu'il y a d'autres sphères à prendre en compte pour capter la mondialisation des très grandes métropoles? Et l'autre partie de la question, évidemment, est Paris dans tout ça?
Bah, il est certain que dans les villes comme Paris, Londres, je dirais New York aussi, il y a une prestige historique, il y a un cadre architectural, il y a une sorte de maillage culturel qui attire, moi, les classes les plus aisées du monde. Évidemment, c'est la base d'une économie de tourisme qui a un rôle important dans l'économie de certaines villes. Ouais, ça c'est clair. Mais de dire que le prestige et l'image est le moteur de l'économie métropolitaine, à mon avis, ça serait de commettre une erreur assez, assez grave. C'est-à-dire que si on veut voir en fait la chaîne de causalité du développement d'une aire métropolitaine, on voit quand même que y a une base économique. Comme je viens de dire, là, ça dépend de la ville en question. Mais la force motrice de développement économique d'une très grande ville, c'est les différentes branches de production, l'activité productive. Dans le cas parisien, d'accord, il y a le tourisme, il y a des musées, il y a des restaurants, Mais à l'échelle francilienne, oui, l'économie, quand même, c'est une économie de manufacture, de la haute technologie, de la finance, des services aux entreprises, de logistique, la plateforme aéroportuaire. C'est là l'emploi. Et c'est ça qui est ces activités qui sont génératrices de revenus, qui permettent le reste de fonctionner. À savoir que puisque les gens ils sont employés ici, ils ont des revenus à dépenser dans les restaurants, ils ont des revenus pour dépenser pour des différentes manifestations culturelles, etc., etc. Donc c'est le modèle de base du fonctionnement d'une économie métropolitaine. Et il y a donc un problème à Paris, je dirais. C'est-à-dire qu'on a tendance à être trop, à mon avis, obnubilé par la beauté de cette ville, par son prestige historique qui est réel, hein, et qui fait plaisir à ceux qui habitent et à ceux qui le visitent de partout dans le monde. Et il y a aussi cette maillage culturel qui est extraordinaire. Mais de croire que on peut baser le développement d'une région de 11 à 12 millions de personnes sur le seul pouvoir symbolique, le prestige, et le prestige plutôt d'un tout petit morceau de la région, qui est le centre-ville, et même de certaines parties du centre-ville. Oui, à mon avis, ça serait de se leurrer par rapport à la réalité du développement économique. Et d'où il y a aussi un grand débat dans les cercles de politique urbaine depuis une dizaine d'années sur le rapport entre ce qu'on appelle la qualité de vie d'une ville et son performance économique. Et il y a toutes sortes de classements, qualité de vie urbaine. Dans les classements internationaux, c'est presque toujours Zurich, Vancouver, Sydney, si je me souviens bien. Parfois Munich, Copenhague, qui sont en quelque sorte le chef de file de qualité de vie urbaine. Il est vrai, pour le cas parisien, c'est quelque chose qu'on peut être fier de ça. Pour des très grandes villes, il y a très très peu qui sont bien classées. Et je crois que si je me souviens bien, Paris est dans les grandes villes du monde autour de 28 ou 30. Alors que Londres, New York, c'est 40, 50. Et ça, c'est pour une raison très simple, hein. Une très grande ville de 10 millions de personnes par rapport à une ville moyenne comme Oslo, Copenhague, Zurich, hein, a beaucoup plus disons, de problèmes de congestion, de pollution, des enjeux, on peut dire des inconvénients liés à la grande échelle de son fonctionnement, à ces inconvénients qui sont à traiter, qui sont difficiles à traiter, donc c'est les coûts de la grandeur. Et donc moi, je dirais que, pareil, par rapport à ça, il y a la recherche qui essaie de trouver un lien entre performance économique et qualité de vie. Et il n'y en a pas. C'est-à-dire que les classements ne se recouvrent pas.
Est-ce que vous voulez dire que le critère de la qualité de vie n'est pas pertinent pour comprendre le rayonnement des grandes métropoles?
En quelque sorte, bah, je dirais, non, je ne veux pas aller si loin que ça. La qualité de vie est clairement importante dans la mesure où c'est une réflexion des efforts qu'on fait pour traiter les problèmes liés à l'urbanisation à très grande échelle. À savoir que si on investit, si on n'a pas investi dans l'amélioration de la qualité de vie, par exemple à Paris ou à Londres ou à New York ou n'importe quelle très grande ville, oui, ça serait un enfer, oui, parce que vous mettez 10 à 15 millions de personnes ensemble, il y a la congestion, la pollution, le bruit et tout ce qui est effet de brassage des activités et des gens, oui, d'une très grande complexité. Et souvent avec des taux de croissance, je veux dire, juste la rotation de l'économie urbaine fait qu'il y a beaucoup de changements. Donc il faut avoir une qualité de vie qui permette tout ça de coexister. Mais quand on dit que le modèle pour le monde, c'est Vancouver ou Zurich, mais tout simplement, d'une part, ces villes sont très bien classées parce que c'est des villes moyennes, dans les pays à forte tradition, disons, de redistribution de revenus avec une fiscalité à l'échelle nationale qui fait beaucoup d'investissements dans ces villes. Et en général, c'est des pays qui sont démographiquement pas très dynamiques, qui veut dire que, d'accord, ils sont dans une situation de stabilité et d'échelle moyenne qui permet de rattraper des problèmes de développement urbain. Mais c'est pas dans ce sens-là une sorte de miroir de notre échec à Paris ou à Londres. C'est même, je dirais, que nous sommes dans une autre dynamique. Nous avons des dynamiques à beaucoup plus grande échelle, et donc nos efforts de rattraper la qualité de vie, oui, sont forcément, disons, plus complexes qu'à Zurich ou qu'à Vancouver. Bon, voilà. Donc, juste un dernier point, là, on a depuis une dizaine d'années, il y a dans la littérature académique et aussi dans des cercles, on peut dire, de formation des politiques urbaines, l'idée que on peut, le moteur de développement économique des grandes villes pourrait en fait avoir comme point de départ l'investissement dans la qualité de vie qui, selon certains auteurs, va attirer les personnes dotées de haut niveau de capital humain, de la créativité, et ainsi de suite. Et que donc ces personnes vont donc décider de s'installer dans la grande ville, et par leur présence, on va avoir donc un développement dynamique de l'économie urbaine. Donc il y a dans la littérature, on peut dire, de grand public, il y a la thèse de Richard Florida sur la classe créative. Dans la littérature académique, on peut dire que c'est Edward Glaser d'Harvard, l'idée que les amenities, les qualités de vie, sont la clé du développement urbain. Donc on n'a que à investir dans tout ça et que le reste va suivre. Moi, je suis très très sceptique par rapport à cette logique du développement urbain, parce que je crois que c'est la causalité dans le sens inverse. Dans un premier temps, on crée la base économique de l'économie urbaine. Les gens, si l'économie urbaine a besoin des gens d'un haut niveau de capital humain et donc des très bons revenus, ils vont venir parce que c'est là où ils vont pouvoir gagner leur vie et aussi s'exprimer professionnellement, avoir de leur créativité. Et de là, on a une base économique et la demande pour les biens culturels, les bons restaurants, les loisirs et un cadre de qualité de vie qui va avec cette couche de la population. Donc il faut être très clair sur quelle est la nature de la causalité dans la séquence de développement urbain.
Alors, si on ne s'intéresse pas aux élites urbaines, mais plutôt aux classes moyennes, on s'aperçoit aujourd'hui que dans le monde, il y a une très forte disparité entre les classes moyennes. Hein. Il y a des inégalités, des inégalités très fortes, alors soit selon les métropoles, soit entre les métropoles du Sud et les métropoles du Nord, mais en tout cas, les classes moyennes sont révélatrices d'une très forte disparité, d'une inégalité d'accès aux ressources et aux services que peuvent proposer aujourd'hui les grandes métropoles. Alors, quels seraient, selon vous, les critères qui permettraient de penser ce qu'est une croissance soutenable?
Ah oui, bah, ça dépend de ce qu'on considère comme soutenable ou durable. D'une part, j'aurais tendance à dire que, surtout dans l'économie d'une ville, rien n'est soutenable pour toujours. Parce que c'est une grande ville, c'est une économie qui est par définition une économie de dynamique, qui est une économie de changement. Mais non, ben, au-delà de ça, je crois que là, il y a évidemment une question très très sérieuse par rapport à la classe moyenne et à la structure sociale de nos très grandes villes. Et là, les villes, en quelque sorte, sont la crispation de la tendance du développement économique tout court, hein, depuis 30 ans. C'est-à-dire la new economy, est une économie où, avec de nouvelles activités, de nouvelles technologies, etc., ça a eu tendance à privilégier, du point de vue de revenus, hein, une certaine couche de la population. Et donc, ça se voit partout dans le monde, sur la planète, mais y compris dans les pays développés comme la France. Et donc, et d'où ça, on a une concentration géographique de ce phénomène dans les très grandes villes, dans la mesure où disons, les activités de pointe se concentrent dans l'économie métropolitaine. Mais bon, mais le problème prend une forme, on peut dire, exagérée lorsqu'on rajoute la concentration spatiale de cette structure sociale de l'économie. Savoir que on a besoin, dans un petit espace, à la fois des gens qui sont extrêmement qualifiés et qui sont de mieux en mieux rémunérés, et beaucoup d'autres, disons, couches de la population avec des revenus beaucoup moins importants. Et tout le monde doit trouver sa place dans un espace restreint où on rajoute à cette interaction l'effet, disons, du prix foncier urbain qui induit une compétition accrue entre ces différentes couches de la population pour l'espace vital. Donc, c'est pour ça qu'on ressent, on a une sorte de malaise depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années dans l'économie de la grande ville, parce qu'on sent qu'il y a un bouleversement économique et qu'on a du mal à trouver un équilibre, oui, entre les besoins de ces différents groupes de coexister et la manière de, on peut dire, d'organiser l'économie urbaine, mais surtout son espace, oui, pour que ça puisse avoir lieu. Donc, il y a ça comme problème. Mais je dirais que, de ce point de vue, Paris est peut-être mieux loti que New York et Londres, dans la mesure où, ayant une économie moins basée sur la finance, et parce que c'est dans la finance que cette explosion de revenus en haute échelle a eu lieu le plus fortement, que Paris étant moins basé sur la finance et aussi encadré par les politiques nationales qui ont visé une certaine compression de la structure des revenus, hein, de compression ou disons, de limitation des inégalités, que Paris en a souffert moins. Et il est possible que ce n'est pas pour avoir de Schadenfreude par rapport à la crise financière qui va frapper Londres et New York, mais très très fortement, beaucoup plus qu'à Paris à mon avis, que on est dans la région Île-de-France. Bon, d'accord, bien qu'on a des problèmes liés aux inégalités, ces problèmes sont peut-être moins forts que dans d'autres métropoles du monde. Mais il y a une deuxième. Donc, et vous avez quand même parlé de cette idée d'une économie soutenable ou durable. Ouais. C'est que pour moi, c'est une question de comment se déroule le développement économique d'une très grande ville dans le temps. Parce que dans le temps, comme toute économie, hein, une économie est une sorte de structure à la fois de production aujourd'hui, mais de transition. À savoir qu'avec de nouvelles technologies, avec la mondialisation, avec tout ce qui nous permet de réorganiser en permanence les différentes branches de l'économie, de trouver d'autres schémas de localisation, de va-et-vient en quelque sorte par rapport à un territoire, ainsi que l'innovation qui amène de nouvelles branches d'activité, de nouveaux produits, etc. Donc on a à gérer une transition, oui, en permanence. Oui. Donc, une économie urbaine, surtout, c'est une économie d'une très grande rotation d'entreprises, de personnes, de technologies, de liens. Donc, c'est quoi qui est soutenable dans tout ça? La soutenabilité d'une économie urbaine, mais c'est comme je viens de dire, c'est pareil pour une économie à l'échelle nationale. Et sa capacité de s'adapter au changement. C'est-à-dire que d'avoir des structures, une sorte de ce que moi j'appellerais un écosystème institutionnel qui permet cette économie de prendre les décisions individuelles et collectives qui permettraient aux entreprises, aux personnes, aux quartiers, aux infrastructures de s'adapter, oui, tout en disant justement maintenant une certaine qualité de vie pour ceux qui sont là, pour ceux qui arrivent, oui, et ainsi de suite. Donc là, je crois qu'on est sur la question qui est très à la mode, oui, du système de gouvernance. Un système de gouvernance qui, pour moi, n'est pas un système de gouvernement, oui, c'est-à-dire que d'administration, mais plutôt l'ensemble des institutions formelles et informelles, de pratiques, de normes, de manières de trouver l'action collective qui nous permet, au fil du temps, de s'adapter aux changements, oui, et de ne pas, et ne pas entrer dans les processus de déclin. Ça, une dernière remarque là, parce qu'on sait que dans l'histoire urbaine, il y a des villes qui se débrouillent mieux au fil du temps, et ceux qui ne parviennent pas à gérer les changements. Et là, je crois que c'est là le défi, toujours pour une grande ville comme Paris. C'est comment gérer les changements.
Sur juste ce que vous venez de dire, vous avez mêlé dans la même phrase les questions institutionnelles, dont on se dit qu'elles font plutôt référence à des échelles nationales, parce que c'est quand même les États qui ont encore le pouvoir légal. Et vous avez petit à petit agrandi l'échelle jusqu'à parler du quartier. Alors, une première question, ce serait de dire à quelle échelle est-ce qu'on parle quand on parle de Paris ? Est-ce qu'on parle de cet espace national dans lequel Laurent Davy, entre autres, ont montré que le rôle de Paris comme lieu de production de richesse et qui est ensuite redistribué à l'échelle d'une communauté nationale ? Ou est-ce qu'on parle de lieux micro-locaux, puisque par exemple, on peut très très bien se dire qu'un lieu comme ici, ou comme les institutions dans lesquelles vous enseignez, sont beaucoup plus connectés à l'international, avec la London Science Po, avec la London School of Economics, et avec UCLA dans votre cas par exemple, qu'avec le voisin de palier, ou avec... à la fois la question de l'insertion des lieux dans leur territoire, et la question de à quelle échelle ce territoire se pense.
C'est sûr qu'avec de nouvelles technologies de communication, avec évidemment les moyens de transport, nous assistons, oui, depuis un certain temps à, disons, une sorte de tissage de liens aux échelles supérieures en termes de distance, hein, qui était en fait possible auparavant. Donc, on a des réseaux professionnels qui sont mondiaux, des vies de carrière qui se passent souvent dans des espaces, des sortes de fragments d'espace, des aéroports, des différentes villes, des congrès, etc. Néanmoins, à mon sens, quand même, il serait quand même erroné de poser les questions en termes d'une sorte de passage du local au global, et plutôt de, disons, des complémentarités entre ces différentes échelles. Ce qui était toujours le cas, même avant. On avait une vie de quartier, ensuite on circulait dans l'espace de la ville, et pour certains, l'espace métropolitain. Bon, maintenant, il est vrai que c'est plus facile, surtout en France avec les TGV, etc., de circuler, d'avoir des temporalités différentes par rapport à d'autres espaces nationaux, ou voire européens, ou même mondiaux. Mais il ne s'agit pas, à mon avis, de remplacer, oui, de dire qu'on passe d'une époque locale à une époque où tous nos rapports sont globaux, mais plutôt des sortes de poupées russes, des échelles qui se croisent, oui, et qu'on construit, oui, des vies à multiples échelles, bon, selon mode de vie, profession, etc. Et donc, moi, je ne vois pas du tout le passage, ou le passage de, ou, comment dire, que la réduction de pertinence de petites échelles, hein, mais plutôt de leur encastrement, oui, dans un monde d'autres échelles. Donc, je crois que ça, c'est très important parce que par rapport à nos politiques économiques et d'aménagement urbain.
Mais sans parler du passage du local au global, on peut dire qu'aujourd'hui, la dynamique des villes, en tout cas des métropoles, elle est liée à leur capacité d'articuler le local, le régional, le transnational. Et que ça pose quand même, ça pose quand même la question de l'échelle de référence, et notamment de savoir si l'État et la forme de l'État-nation et l'échelle appropriée pour penser bon, les grandes transformations contemporaines. Et bon, il y a tout un pan de la géographie urbaine qui parle de citoyenneté urbaine, de citoyenneté multiculturelle, en disant dans le fond que voilà, l'État-nation ou le modèle westphalien de la citoyenneté est plus la bonne référence parce qu'il y a ce jeu d'échelle constant. Il n'y a pas le passage du local au global, il y a sans arrêt une intrication des échelles qui fait que l'échelle de la nation, ou l'échelle, bon, qui serait exclusivement celle de la région, n'est pas forcément la bonne échelle. Voilà, on est dans une dynamique des échelles qui font que, bon, la question de la décision politique est devenue, me semble, plus compliquée qu'avant.
Non, mais c'est sûr que cette dernière période de développement économique a privilégié, on peut dire, l'échelle régionale dans le sens région Île-de-France, oui? Et que l'axe dorsal de l'économie globale qu'on a construit depuis 30-35 ans, c'est le réseau des métropoles dans le monde. Qui fait que c'est vrai qu'on a des métropoles qui appartiennent à la fois à leur pays, sauf que Paris est quand même très français. Et en même temps, Paris appartient à cette économie, cet maillage de grandes villes dans le monde. Oui. Et il est vrai que et le cas parisien est particulièrement intéressant, comme le cas de Tokyo, parce que c'est deux grandes villes qui sont dans l'histoire, et je dirais que l'ascension de ces deux grandes villes est très directement liée à leur centralité dans les États forts, qui fait que ces deux régions sont devenues des centres économiques de leurs économies nationales respectives. Et en même temps, ces villes deviennent des noyaux importants dans une économie mondiale. Et on peut dire, si pour polémiquer un peu, que un des problèmes pour la région francilienne est que les besoins de cette économie francilienne, qui est presque un tiers de l'économie française, bon, un peu moins, mais bon, sont souvent très différents des besoins de d'autres territoires en France. Or, notre région ici est quand même extrêmement fortement, on peut dire, j'utilise le mot en connaissance de cause, très contrainte par des politiques nationales qui sont, à mon avis, souvent très mal adaptées à nos besoins dans cette région. Et en même temps, il est vrai qu'on dit on a des capacités, on a des capacités d'agir, on dit on a donné des pouvoirs à la région. Je dirais que pour l'instant, la région est à mi-chemin, dans le sens où on commence à agir en tant que région, mais on n'a pas des cartes en main pour assumer toutes les décisions que, à mon sens, si la région Île-de-France était un pays, ça serait un pays de taille moyenne en Europe, hein? Il y a des pays qui sont souverains, qui peuvent prendre des décisions que nous ne sont pas en mesure de prendre en Île-de-France. C'est parce qu'évidemment, il y a un deal. C'est toujours les grandes villes par rapport à leurs territoires nationaux. Il y a toujours un deal politique hein, qui est. On essaie de trouver des compromis. Oui, n'est-ce pas? C'est l'histoire de nos pays. Il n'y a pas un seul pays où ce n'est pas le cas. Mais donc, à mon sens, on est toujours en France dans des arrangements qui n'ont pas entièrement, on peut dire, rattrapé la réalité de nos besoins ici dans la région Île-de-France. Notamment, il y a une idéologie Bien sûr que Paris est responsable pour le destin des provinces en France. Je crois qu'on a quand même des chiffres qui montrent que Paris est plutôt le moteur de l'économie nationale. Et en même temps, en tant que moteur, on ne donne pas beaucoup d'autonomie à la région de faire ce que moi j'estimerais nécessaire pour réaliser son potentiel.
Alors justement, sur ces, peut-être pour conclure, qu'est-ce que vous jugeriez nécessaire pour réaliser ce potentiel? Et est-ce que vous trouvez que les initiatives récentes, que ce soit sur le schéma directeur ou sur les grandes consultations d'urbanistes, architectes, ou les discussions en cours sur la gouvernance via Paris Métropole, vont dans le bon sens?
Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup d'idées qui commencent à voir le jour, hein. Et moi, je dirais que ce qui me donne quelques soucis par rapport au Grand Paris aux réflexions sur l'avenir de l'Île-de-France, c'est que on va mettre l'accent, disons exclusivement sur l'aménagement du territoire, c'est-à-dire sur le. Et c'est vrai que c'est là où on a des leviers, hein. On a des leviers de pouvoir, on a la tradition, on peut construire des infrastructures, faire des aménagements, des grands projets, etc. Et je ne veux pas dire que ce ne soit pas nécessaire, hein. C'est clair que on a des défis d'aménagement de l'espace qui sont très importants, notamment de décloisonner Paris de la petite couronne, hein. Je trouve que là, c'est unique à Paris et qu'on a une petite ville très prestigieuse, magnifique, au centre d'une région qui est franchement beaucoup moins splendide que son petit centre, hein, et que du point de vue économique, mais aussi du point de vue architectural, il est essentiel de trouver une solution. Quelle solution? Là, c'est une très grande question, hein. Bon, mais également, il faut trouver des solutions, on peut dire, de gouvernance économique de la région. Oui, et là, c'est beaucoup plus compliqué. Oui. Parce qu'en ce moment, en France, on a une prolifération de couches de prise de décision. Tout le monde le sait, hein. Tout le monde le sait qu'on a des structures redondantes, inefficaces, qui communiquent pas entre elles. On ne sait pas où les budgets vont. Ouais. Non, mais ça, c'est clair, hein, de la superposition de tout ça. Et qu'on a donc une manque de transparence. Ouais, et que ça freine, en fait, ça freine la gouvernance moderne de la région. Moi, j'irais même plus loin, où je dirais qu'il est temps que l'État reconnaisse et donne certains pouvoirs à la région, oui, pour faire certaines choses. Si l'État n'est pas prêt à les faire, hein, il faut au moins laisser la région, oui, agir dans ce sens-là. Il y a des questions liées à la fiscalité des entreprises, au financement, notamment le capital risque, à l'organiser. Bon, ça commence à se faire au moins dans l'organisation de la recherche et des universités. Là, je me réjouis de voir qu'enfin, on commence à donner à la région la capacité d'agir, hein. Mais maintenant, il faut qu'on assume, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Mais et juste pour revenir à la question de l'espace et l'aménagement et l'architecture et tout ça, je ne suis pas architecte, hein, mais moi j'ai un peu. Bon, j'admets que c'est une perspective anglo-saxonne, hein, mais je dirais que ça serait pour moi dommage si on reste dans l'optique quelques grands projets, oui, qui font tache et qui sont des projets de prestige, oui, au lieu je dirais, d'ouvrir la région à l'architecture, à l'innovation architecturale, à l'urbanisme moderne, qui est ni les grands projets, quelques tours avec des dalles et un centre et un machin et un nom donné, ou voir des tout petits projets qui se font dans le tissu urbain. Et je dirais de normaliser, de rendre normal l'innovation architecturale et urbaine, oui, de dire on ouvre tous les quartiers, en dehors des quartiers historiques, ça on ne va pas toucher, mais dans le tissu urbain de la région, il y a beaucoup de place pour devenir une métropole moderne, oui, et on a tendance on n'a pas cette tradition dans la région, alors que à Londres, à New York, à Hong Kong, à Shanghai, à Los Angeles, à Chicago, oui. Donc là, il faut avoir une réflexion sur ça.
Alors c'est vraiment votre remarque est vraiment intéressante, parce que quand on voit les équipes d'architectes qui ont été retenues, les 10 équipes d'architectes qui ont été retenues pour le Grand Paris, on se demande si ces équipes vont produire une architecture logo, une architecture carte de visite, qu'on va accoler comme ça au Grand Paris, et donc qui serait une stratégie de visibilité de Paris dans le monde, ou est-ce que ces projets architecturaux seront vraiment au service de la région? Donc c'est ce que vous posez, à mon avis, c'est un des vrais enjeux de la réflexion architecturale sur le Grand Paris aujourd'hui.
Ouais. Moi, je pense que oui, hein, et bon, je dirais que je suis franchement très sceptique par rapport à l'idée de mettre quelques grands projets logo aux portes de Paris et dire bon, d'accord, on a décloisonné Paris, on a lancé une nouvelle dynamique urbaine. Parce que la qualité, la modernité, ça devrait être partout, hein, et pas seulement dans quelques projets symboliques. C'est pas ça qui va changer la dynamique de la région, à mon sens.
Bon, Christopher, merci beaucoup d'avoir répondu
à mes questions.